dimanche dernier, nous avons été des millions à marcher de la République à la Nation. Beaucoup d'entre nous désorientés, errant de rue en rue, cherchant à rejoindre l'un des cortèges, demander un homme à son prochain selon la formule biblique « Excusez-moi, savez-vous où est la Nation ?» Ou bien « Pouvez-vous me dire comment rejoindre la Nation ?» Vous êtes sûr, il faut passer par la République ? Ou encore « Oui, j'en viens, il y a beaucoup de monde à la Bastille. » Je suis sûr, c'est Voltaire. Voltaire, vous dis-je. Ah bon ? Vous avez plutôt entendu parler de Philippe Auguste ? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ainsi, dimanche dernier fut un jour où les mots « République » et « Nation » prirent une résonance particulière. Des mots qui retrouvaient une fraîcheur, une force qui faisait marcher, aller de l'avant, qui, dans un silence recueilli, donnait à penser à la responsabilité, à l'avenir, qui, à la vue de tous ses enfants, en poussette, dans les bras ou sur les épaules de leurs parents, invitait à réfléchir à l'éducation qui, un jour, après avoir été instruction publique, devint éducation nationale. Ce fut un jour où la liberté d'expression, toujours en vie, dessinée en filigrane, la liberté guidant le peuple, née sous le pinceau de Delacroix, après qu'un monarque voulut précisément brimer cette liberté. Ce fut un jour où, dans cette marche historique, on put voir des drapeaux bleu, blanc, rouge sur lesquels était écrit « Je suis juif », donnant un bel écho aux paroles vigoureuses de Manuel Valls qui déclarait la veille « La France sans les juifs de France n'est pas la France ». Juliette Cibon, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wachnin.
Juliette Cibon, vous êtes maître de conférences en histoire du Moyen-Âge à l'Université d'Albi et directrice de la Nouvelle Gallia Judaïca. Les auteurs de Talmudique vous connaissent déjà puisque j'ai eu le plaisir de vous recevoir en automne dernier pour évoquer avec vous la figure de Saint-Louis à l'occasion d'un colloque qui s'était tenu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et qui était intitulé « Saint-Louis et les Juifs, politique et idéologie sous le règne de Louis IX ». Je vous reçois aujourd'hui pour un nouveau colloque intitulé « Les Juifs et la Nation au Moyen-Âge », un colloque, il faut le dire, qui était prévu depuis de longue date, que vous organisez avec Claire Soussan et qui aura lieu la semaine prochaine, le mercredi 21 et jeudi 22 janvier, à la Maison de la Recherche, 28 rue Serpente. Et je précise tout de suite que les personnes qui voudraient s'y rendre doivent s'inscrire à l'avance pour des raisons de sécurité et trouveront tous les détails sur le site de l'émission. Ce contexte historique, où les mots « république » et « nation » en quelque sorte sortent de leur sommeil dogmatique, comme aurait dit Kant, donne à ce colloque « Les Juifs et la Nation au Moyen-Âge » une forme d'urgence et d'actualité inattendue. Inattendue dans le sens aussi, dans le sens que c'est peut-être en retournant bien en amont dans l'histoire, jusqu'à ce Moyen-Âge toujours fascinant et mystérieux, que l'on peut, peut-être, trouver des points d'appui conceptuels pour penser, pour repenser la question de la nation, et en particulier dans ce rapport des Juifs et la nation. Rapport qui peut être une forme de paradigme qui ouvre à de multiples questionnements connexes aux implications plus modernes comme l'intégration, l'émancipation, l'assimilation, la dissolution, l'extinction, sans oublier la célèbre élection. Juliette Cibon, quels sont les enjeux d'un tel colloque et dans un tel contexte ?
Alors, les enjeux d'un tel colloque sont multiples, bien sûr. Vous avez comment aurions-nous pu faire autrement ? Évoquer le contexte très actuel dans lequel finalement ce colloque va se tenir. Mais de toute façon, la question de la nation reste une question très contemporaine à de multiples occasions, bien en amont des événements tragiques de la semaine dernière. Alors l'enjeu, il est d'abord effectivement de s'interroger sur un concept, la nation, concept sur lequel les médiévistes se sont depuis longtemps penchés, les spécialistes en particulier d'histoire politique, d'histoire religieuse. Je pense notamment à l'ouvrage peut-être fondateur en la matière de Colette Beaune, « Naissance de la nation France », publié en 1985 et qui, justement, a examiné la construction de la nation dans la France des Capétiens, celle des 14e et 15e siècles, en s'intéressant à l'imaginaire chrétien. Mais force est de constater que cette question pour le Moyen-Âge juif n'a jamais été abordée de manière frontale. Quand on est médiéviste, historien des juifs médiévaux, on s'intéresse évidemment à ces thèmes en filigrane qui sont les thèmes de la place des juifs dans la société chrétienne, les questions de vivre ensemble aussi, qui sont des questions qu'on se pose aujourd'hui, qui sont très contemporaines. Mais jamais véritablement on s'est intéressé à ce terme de nation qui apparaît pourtant dans nos sources, dans nos textes médiévaux, que ce soit les textes hébraïques, que ce soit les textes latins et même les textes en langue vulgaire. Alors, peut-être un autre enjeu, mais tout à fait complémentaire justement de cette étude, c'est l'intérêt justement pour le lexique. Le grand médiéviste français Marc Bloch nous a laissé un héritage, et en particulier il nous a dit combien malheureusement les hommes, lorsqu'ils changent de mœurs, n'ont pas l'habitude de changer de mots. Autrement dit, les mots que l'on trouve dans des textes très anciens sont les nôtres: nation, liberté, bénéfices, universités, etc., etc. Mais ils n'ont pas tout à fait, voire pas du tout, la même acception qu'on leur donne aujourd'hui. Et il me semble donc qu'il faut faire cet effort de rigueur dans un premier temps. Alors je sais que la rigueur n'est pas forcément très sexy ni très au goût du jour, mais il me semble que justement, dans des moments de forte émotion, de confusion, s'il y a peut-être un repère à viser, c'est celui de la rigueur. À l'heure où la parole se multiplie de manière exponentielle sur les réseaux sociaux, où des milliers de gens sont prêts à dépenser 20-25 euros pour acheter les livres de sophistes, eh bien, je crois que la parole de l'expert, si on peut dire, de celui qui, en tout cas, fait l'effort de l'analyse méthodique, historique, doit être entendue et doit retrouver sa place finalement dans une agora où tout se vaut, tous les mots se valent et toutes les voix sont sur le même plan.
Alors je pensais en vous écoutant à cette phrase de Camus qui dit « mal nommer les choses ajoute au malheur du monde » et je me disais aussi qu'il serait extrêmement intéressant de plonger dans ce lexique. Alors, il y a peut-être deux lexiques différents, deux répertoires différents. Il y a celui de la manière dont les Juifs eux-mêmes, dans leurs textes, dans les textes à la fois juridiques, dans les textes peut-être aussi poétiques ou de philosophiques, utilisent les différents termes de peuple, de nation, de communauté, de fraternité, de congrès, enfin de tous ces termes qui disent le groupe. Et puis il y a de l'autre côté la manière dont les peuples dans lesquels les Juifs sont insérés parlent des Juifs. Donc il y a deux répertoires qui sont conjoints, si on peut dire, mais qui n'ont pas toujours les mêmes acceptions ou les mêmes orientations. L'un est plutôt un lexique hébraïque hérité de la Bible et du Talmud, et l'autre est un lexique qui, à l'origine, fut grec et latin dans les traductions de la Bible, mais ensuite dans le droit romain, puis dans les premiers textes en ancien français, sont des textes, un répertoire plutôt latin. Alors, si vous le voulez bien, commençons par le répertoire hébraïque pour voir comment, quels termes on trouve dans pour nommer la nation. Juliette Sivon.
Alors, les mots du répertoire hébraïque, vous les connaissez nettement mieux que moi, Marc-Alain. Alors, il s'agit des termes qui, effectivement, désignent le peuple. On peut penser au mot « âme ». On peut aussi évoquer les termes qui désignent l'autre. Et là, je pense à ce mot « goy » dont vous allez sans doute peut-être développer davantage l'étymologie. Et puis, on trouve également, alors peut-être des termes qui, ou au moins un terme qui se rapproche peut-être le plus de ce mot de « nation » que nous essayons d'examiner, qui est « les hommes ». Et puis d'autres encore, je suppose que vous allez me compléter. Et ce qui est intéressant, justement, vous l'avez bien dit, c'est de faire dialoguer ces répertoires, parce que ce qui nous intéresse dans le colloque en particulier, c'est à la fois la manière dont les Juifs se pensent au sein de la société majoritaire, et puis la manière aussi dont les Juifs sont pensés par la société majoritaire. Et du coup, il me semble qu'on ne peut pas, si vous voulez, dissocier l'approche d'un côté des textes hébraïques et puis de l'autre les textes latins, mais que ces textes dialoguent, et ces textes dialoguent d'autant plus qu'on sait pertinemment que les intellectuels juifs et chrétiens médiévaux se connaissaient, participaient d'une même république des lettres, et que les uns connaissaient les textes des autres, alors pas toujours très bien, parfois de manière grossière, mais il y avait tout de même des échanges. Et puis, il y avait aussi parmi les échanges, la polémique religieuse, qui était certes très violente parfois, mais enfin qui était aussi moment de dialogue et d'échange. Et donc, évidemment, les textes se répondent et se font écho.
Alors, c'est pour permettre ce meilleur échange et ce meilleur écho qu'il faut reprendre peut-être les termes. Vous avez évoqué le terme de « âme », qui est effectivement le terme le plus, je dirais, le plus général pour dire la manière dont le peuple juif se nomme le peuple, « âme ». Ça vient d'une racine qui est « im », qui veut dire « avec ». C'est-à-dire, en fait, c'est la manière d'être avec l'autre. Mais il y a un autre terme qui est le terme de « goy » et au pluriel « goyim ». À l'origine, dans le texte biblique, « goyim », ça veut dire « les nations », c'est toutes les nations. Et le terme de « goy » ne désigne pas du tout l'autre ou le non-juif, c'est tout simplement le peuple. Quand Dieu dit à Abraham « Je vais faire de toi un grand peuple », il lui dit « Goy Gadol ». Donc, c'est ce qui est très important. Et quand on nomme le peuple qui n'est pas juif, on dit aussi le terme de « âme ». Donc, il n'y a pas de spécificité lexicale pour désigner le peuple juif, mais c'est ces termes qui ont évolué avec le temps. Et l'expression était « Goy Acher », un peuple autre. On a enlevé « autre » et c'est devenu « Goy ». Et c'est ce qui a donné le sens de celui qui n'est pas juif. Mais il est très intéressant justement de voir que ce mot, dans son apparition, quand il est dit à Abraham, il est dit « quitte ton père, quitte ta mère, la maison de ton père, la maison de ta mère », c'est-à-dire ta patrie et ta matrie, « et va vers le pays que je te donnerai et je ferai de toi un grand peuple », on voit que la notion de peuple est dégagée de la notion de territoire. C'est-à-dire que le peuple juif a cette caractéristique de ne pas être autochtone, de ne pas venir de la terre. Et pour le souligner encore, lorsqu'il va naître comme peuple pour la première fois, il n'est pas dans la terre qui est la sienne, qui va devenir la sienne, mais il naît en Égypte. Et je pense que cette conception d'une définition du peuple non territoriale est éminemment importante, en tout cas dans les textes, dans les premiers textes de la tradition juive. Et le terme de Goy lui-même, qui est si utilisé, vient d'une racine araméenne qui veut dire le corps. Gev, c'est le corps. Et ça veut dire aussi « go », c'est ce qui est à l'intérieur. Mais en même temps, il y a ce « yod » qui veut dire « étendre la main », »,« reconnaître », »,« remercier ». Il y a donc, c'est quelque chose, un peuple, c'est un corps, comme une, il faudrait presque traduire une corporation, et puis, mais pas quelque chose qui est fermé sur lui-même, qui est refermé dans sa propre immanence, mais qui est ouvert dans le dialogue et la reconnaissance avec l'autre. Là, je pense que c'est un point essentiel. Il y a d'autres mots en hébreu, il y a le « ka'al » et la « keila » qui désignent la communauté. Et je crois qu'au Moyen-Âge, ce mot « ka'al », Juliette Sibon, désigne plus la nation.
Alors, je dirais plutôt le contraire, en fait.
Allez-y.
Voilà, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, dans les textes, on va dire, hébreux de la pratique, si vous voulez, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans les écrits des savants, ni de l'exégèse, mais dans des, je ne sais pas moi, des chartes, des contrats entre individus, et ou qui impliquent justement la communauté, on trouve le terme de Ka'al, justement, pour désigner la communauté. Alors, c'est très intéressant tout ce que vous venez de nous dire, parce que on voit à quel point l'étude du lexique, c'est pas du tout une étude austère, aride, et au contraire, à quel point c'est passionnant et à quel point des racines de l'étymologie, on peut eh bien, déjà faire émerger beaucoup d'idées d'une extrême richesse. Et alors, dans le répertoire latin, c'est aussi tout à fait...
Si vous voulez bien, on arrivera au répertoire latin après la pause. Donc, on va s'arrêter à richesse. Et puis, on va, je vais reprendre une remarque. Ce que vous dites me fait penser à une phrase que j'avais en mémoire par rapport à cette notion de lexique. C'est une phrase de Valère Novarina qui dit « Je n'utilise pas les mots, je n'en ai jamais cherché aucun, ce ne sont pas des outils. Devant le langage, les sensations sont de l'ordre du toucher, quelque chose parle là, derrière l'oreille, on ressent la matérialité de tout. Les mots sont comme des cailloux, les fragments d'un minerai qu'il faut casser pour libérer leur respiration. » Tout un livre peut provenir d'un seul mot brisé. Le mot est fermé, enveloppé, secret, enfoui. Quelque chose doit apparaître de dedans, de l'intérieur du mot, et non pas du tout de l'intérieur de l'écrivain. Les mots en savent beaucoup plus que nous, mais il faut les prendre avec amour entre ses mains et les porter à son oreille. Les mots sont au sol, incompréhensibles et comme des noyaux. Je les ramasse, j'écoute dedans, je les brise. Apparaît une phrase, une scène, toute la construction respiratoire du livre. J'imagine, Juliette Cibon, que vous êtes très surprise par ce choix musical dans le contexte de cette émission sur la nation et les Juifs au Moyen-Âge. Alors, cette chanson « It's So Quiet » chantée par Betty Hutton en 1951 et qui avait été écrite par Hans Lang et Bert Reisfeld en 1948 est reprise en 1995 par Björk. Et elle nous fait entendre ce son chut, que le français transcrit et prononce « chut » ou « chut ». Or, le dictionnaire historique de la langue française nous apprend que la première occurrence du mot « chute » dans cette langue se trouve dans les glosses de Rachi. Dans le livre des Nombres, 13-30, j'ai amené Rachi avec moi, c'est surprenant, je lis « Ken derech bene Adam a rotse leshatek agudat anashim omer chut » et ça c'est dans Rachi. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? C'est une façon de rappeler qu'au cœur de ce Moyen-Âge des 11e, 12e siècle, les rabbins français parlaient parfaitement la langue d'Oïl au nord et la langue d'Oc au sud, en faisaient usage dans leurs commentaires pour expliquer tel ou tel mot de la Bible ou du Talmud, ces commentaires devenant pour l'histoire de la langue française un conservatoire linguistique d'une formidable importance. Cela dit beaucoup du rapport des Juifs à la nation, si on se souvient que pour certains théoriciens de la nation, la langue commune est l'un de ses aspects fondamentaux. Et là, on retrouve véritablement l'axe de notre conversation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la rigueur et l'importance de se consacrer au lexique, à ses répertoires différents, pour analyser la nation. Donc, on a vu très rapidement le lexique hébraïque, mais il y a le lexique latin au même moment. Juliette Cibon.
Oui. Alors, si vous me permettez, avant d'évoquer le lexique latin, je voudrais aussi rebondir sur ce que vous venez de dire en évoquant Rachi et puis ses successeurs. C'est aussi de voir combien, finalement, le Moyen-Âge est à la fois très éloigné de nous, mais aussi très proche. On a coutume en Occident, en France en particulier, de se sentir très proche des Grecs et des Romains, surtout quand on pense la République, la nation, la démocratie, etc. Et finalement, quand on pense au Moyen-Âge, eh bien, on pense à toutes les valeurs contre lesquelles l'Occident lutte depuis les Lumières et la Révolution française, l'obscurantisme, l'intolérance religieuse, la barbarie, etc. Donc, je crois aussi que notre discussion, elle est importante pour montrer peut-être le Moyen-Âge, enfin, c'est pas peut-être, le Moyen-Âge ne mérite pas cette amnésie, amnésie qui a souvent pour corollaire le fantasme, effectivement, comme on peut le voir dans certaines séries télévisées, dans les jeux vidéo, bon. Et que le Moyen-Âge nous aide à penser le présent et nous donne des outils pour penser le présent. Alors, pour en revenir plus précisément au répertoire latin, donc en latin, on trouve le terme de natio, bien sûr, qui vient du verbe nasci, qui veut dire naître, et qui, au Moyen-Âge, désigne d'abord des groupements très divers. On pense aux nations universitaires, par exemple, mais qui, dès la fin du Moyen-Âge, 14e et peut-être surtout 15e, prend un sens politique et donc désigne la nation. Alors, pas, évidemment, pas la nation où on l'entend depuis le 19e siècle, bien évidemment, mais qui désigne quand même un collectif qui se pense comme tel et qui se définit comme tel. Alors, il se trouve que pour ce qui nous intéresse, ce terme de natio en latin est rarement appliqué aux Juifs, mais on le trouve natio Judeorum, la nation des Juifs, dans certains textes. En tout cas, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises avec parcimonie et dans des textes, dans des documents toujours liés à la fiscalité en particulier. Donc, ce qui est aussi intéressant, on n'a pas forcément le temps de développer, mais le patriotisme par le biais de la fiscalité, c'est quelque chose qui se construit, qui commence à se construire à cette époque, dans les derniers siècles du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. En latin, il y a aussi tout un répertoire de termes connexes qu'il faut mobiliser, bien évidemment. Et qui sont souvent d'ailleurs, alors qu'il faut mobiliser, qu'il faut aussi bien comprendre dans leur contexte, alors leur contexte historique bien sûr, en fonction des événements qui se passent, mais quand on parle du contexte, on parle aussi du genre de texte dans lequel on trouve le mot. Hein. Par exemple, le mot « Judeus », juif en latin, n'a pas du tout la même acception dans les textes d'exégèse biblique que dans les actes notariés, par exemple, que je connais bien. Hein. C'est le même mot. On parle évidemment des juifs, mais pas du tout de la même manière. On peut avoir dans l'exégèse chrétienne un sens très péjoratif, par opposition avec hébreus, d'ailleurs, les hébreux, qui désignent évidemment le peuple élu, ce peuple ancien, qui renvoie à la langue, à la culture, et judeus, qui qualifie les juifs contemporains, donc pour lesquels on a éventuellement beaucoup plus de mépris, c'est un euphémisme. Alors que dans les actes notariés, pardon, eh bien le terme de judeus, c'est un terme neutre, si vous voulez, d'un emploi tout à fait juridique. Il s'agit de qualifier la personne avec qui je fais affaire, en l'occurrence, il est juif ou c'est une juive, et donc ça renvoie évidemment à des droits, à des prédispositions en matière de droit. Bon, donc là, on peut évoquer un emploi neutre. Et puis, il y a d'autres mots aussi que l'on peut mobiliser. Le terme de populus, par exemple, alors qu'on pourrait peut-être comparer ou en tout cas essayer de mettre en écho par rapport à âme. Ce terme de populus qu'on trouve aussi avec gens, le latin gens. Alors, ce terme de populus, il est extrêmement péjoratif dans les textes de la polémique parce qu'il désigne le peuple déicide, meurtrier du Christ. Mais on le trouve aussi utilisé de manière positive parfois. Ce terme désigne justement le peuple élu, mais dans un sens évidemment extrêmement positif. Alors, le terme de gens, également, est un terme qui peut aussi désigner les juifs. Alors, chez saint Augustin, par exemple, dans la Cité de Dieu, ce terme de gens ne désigne pas les juifs, mais au contraire les ennemis d'Israël. Et alors, saint Augustin, en revanche, utilise un autre terme, le terme de stirps, que l'on peut traduire par souche, par race, pour parler des juifs. Donc, vous voyez, on a une multitude de mots, évidemment, qu'il faudrait vraiment prendre le temps d'analyser. En tout cas, c'est l'objectif de ce colloque, c'est justement de réunir des spécialistes de tous ces textes.
Alors, vous avez parlé de droit et de textes juridiques. Le XIIe siècle est un moment charnière dans le droit des juifs, puisqu'il passe de citoyen romain libre à citoyen ou à non-citoyen qui sont plus assimilés à des serfs, par exemple en France? Je vais peut-être un peu rapidement, mais...
Très, très rapidement, parce que d'abord, il reste, tout dépend des lieux, lieux desquels on parle. Alors, là où le soleil brille, dans le midi de la France, et puis aussi dans l'Europe méditerranéenne plus généralement, les Juifs restent des citoyens dans le cadre des communes, dans le cadre des villes. Quant au statut de serf, attention, ce statut de serf, il est très, très discuté. Voilà encore un mot sur lequel il faut s'arrêter. C'est serf de la chambre royale. C'est ainsi que les Juifs étaient parfois désignés et reconnus comme tels par les pouvoirs. Ce mot de serf, il n'est justement pas à rapprocher de servage, mais ni de servitude, mais peut-être davantage de service, si on veut jouer sur l'étymologie. Et il faut peut-être retenir très vite, très rapidement, que c'est d'abord un statut de protection qui est largement inspiré d'ailleurs du statut en monde musulman, le statut de la dhimma, qui est le statut donc qui encadre les minorités et la pérennité des minorités au sein de la société majoritaire.
Alors, dans l'évolution de la manière dont les Juifs se considèrent comme nation, le mot va devenir quasiment synonyme. Enfin, le mot va devenir synonyme de communauté juive ou de peuple juif chez les Portugais, par exemple, vers le XVIe siècle, en disant « nous sommes de la nation », même s'ils ne prononcent pas le mot juif, ça veut dire « la nation ». Oui. C'est pour voir l'évolution et l'importance de ce terme, puisqu'on est parti de natio, pour dire que ce terme, ce vocabulaire, enfin ce lexique, va véritablement, à un certain moment, dans cette forme-là de nation, désigner le peuple juif. Juliette Thibon.
Oui, alors là, effectivement, on glisse un peu dans le temps et on voit justement comment le terme peut évoluer, le glissement sémantique qui peut s'opérer, effectivement. Alors, pour ce qui est du Moyen-Âge, pardon d'y revenir, mais c'est tout de même...
c'est le but de l'émission et le titre du colloque.
Et le titre du colloque. Alors, pour ce qui est du Moyen-Âge, justement, bon, évidemment, le colloque n'a pas eu lieu et j'attends beaucoup du fruit de nos discussions, mais les questions qui se posent et qui seront peut-être controversées, je ne sais pas, c'est effectivement d'essayer quand même de comprendre comment les Juifs se pensaient à cette époque dans le contexte de la diaspora. Et cette question, elle se pose d'autant plus que les Juifs respectent ce principe exprimé en araméen, Dina de Malchuta Dina, qui est un principe talmudique qui littéralement signifie la loi de l'État et la loi. Justement, c'est un principe d'existence qui est d'ailleurs toujours le principe d'existence des Juifs en diaspora aujourd'hui, qui ne les conduit pas à revendiquer l'existence d'une nation juive, quand bien même on le sent aussi. Les Juifs ont cette conscience d'être cimentés par des critères objectifs, peut-être une origine commune, la langue en tout cas, la culture, la religion bien sûr.
Donc, les textes
bien évidemment. Donc il y a effectivement des questions qui seront soulevées et qui se posent, comme le rapport à la Terre Sainte, puisque vous avez introduit cette émission justement en l'évoquant. On sait qu'il y a des aliotes au Moyen-Âge, donc
des départs
vers la Terre Sainte.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très particulier dans le judaïsme, comme si, là, on en parle aujourd'hui dans notre modernité, pour beaucoup de groupes sociaux, une sorte de dialectique entre le pays et la diaspora. Et cette idée de la diaspora est quelque chose qui semble aujourd'hui moderne, mais qui est en fait déjà très pensé à cette époque-là du Moyen-Âge par les Juifs. Et c'est peut-être en retournant, comme vous l'avez dit au milieu de notre conversation, en retournant vers la manière dont les Juifs et les savants du Moyen-Âge ont pensé cette dialectique du peuple et de la diaspora, qu'on peut apporter peut-être une nouvelle fraîcheur dans le questionnement et de nouvelles pistes. Et c'est peut-être ce que vous allez découvrir dans ce colloque, Juliette Cibon.
Oui, je l'espère. Et effectivement, le Moyen-Âge, essaye de penser cette dialectique entre ce qu'on pourrait appeler le national, en mettant des guillemets, et puis l'universel.
Je rappelle que ce colloque se tiendra la semaine prochaine, donc le 21 et 22 janvier, à la Maison de la Recherche, 28 rue Septante, dans le 6e arrondissement. Je redis que pour des raisons de sécurité, il faut s'inscrire à l'avance et les auditeurs trouveront toutes les informations sur le site de l'émission. Merci Juliette Cibon infiniment pour cette trop rapide et riche et dynamique conversation qui a ouvert un questionnement passionnant, en tout cas qui donne envie d'en savoir beaucoup plus et qui donne envie de participer à ce colloque. Encore merci.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, réalisation d'Annie Journeau. Vous trouverez le programme et tous les détails pratiques du colloque « Les Juifs et la Nation » sur le site France Culture à la rubrique de l'émission que vous pouvez podcaster, partager et réécouter. Kol Touv, Leitraot, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.